RCF, il est 5h. Dialogue, présenté par Montserrat Vidal.
Parler de l'effondrement que beaucoup d'entre nous ont le sentiment de vivre ces dernières années, j'ai invité Christian Salmon, qui publie aux éditions Les Liens qui Libèrent, un essai remarquable et éclairant qu'il a intitulé L'Empire du Discrédit. Bonjour Christian Salmon.
Bonjour.
Au cours du premier entretien, vous nous parliez d'effondrement anthropologique, dont on perçoit aujourd'hui les soubresauts, les secousses, notamment depuis 2000, et qui certainement s'est renforcé à partir des conséquences de la crise financière de 2008. Cet effondrement anthropologique, vous le montrez impactant des domaines aussi différents que la religion, la politique, le juridique, le médiatique. Et dans votre essai, il y a aussi une réflexion passionnante sur le pouvoir des images qu'utilisent ces nouveaux bouffons dont certains sont aujourd'hui au pouvoir. Je parle en particulier de Trump, qui vient d'être élu le 47e président des États-Unis. Et dans votre essai, vous réfléchissez particulièrement à deux images, à deux photographies prises à deux moments différents. La première photographie est celle de son incarcération, et la seconde photographie est beaucoup plus récente. Elle concerne la tentative de meurtre dont il a été victime juste avant son élection. Et vous montrez comment ces deux images iconiques, dites-vous, ont eu le pouvoir incroyable de renforcer à la fois son emprise, mais aussi le pouvoir de construire un mythe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce pouvoir des images ?
Oui, je comparais tout à l'heure la manière de faire campagne de Trump à celle de Barack Obama. Celle de Barack Obama était construite sur des récits articulés qui combinaient son histoire personnelle, l'histoire des États-Unis, son identité métissée à celle de l'Amérique, etc.
Il y avait un récit, storytelling pratiquement, dites-vous.
C'est ce storytelling-là que j'avais étudié dans un livre précédent qui animait sa campagne. Avec Trump, j'ai dit, ce n'est pas la croyance, c'est le discrédit, et on pourrait ajouter, ce n'est pas le récit, c'est l'image. C'est l'image parce que l'image peut être sidérante. On dit parfois, une image vaut mille discours. Eh bien, dans le cas de Donald Trump, c'est particulièrement vrai, parce que il a une sorte de... C'est un enfant de la société du spectacle. Il a été formé par ça.
Divertissement de bas niveau, je peux me permettre.
Bien sûr. Et d'ailleurs, je parle dans le livre d'une anecdote qui est racontée par le photographe de Trump, qui l'a accompagné depuis 2016, et qui disait en 2016, il venait d'être élu, et donc il était dans la Trump Tower, et j'essayais de faire une photo de lui, et il était dans une espèce de béatitude, de contentement narcissique, il souriait, et je n'arrivais pas à capter ce que je considérais un peu comme l'essence du Trumpisme. Et finalement, après des essais répétés, je lui ai dit, mais faites comme dans la télé-réalité, quand vous dites « you are fired », c'est-à-dire vous êtes viré. Et raconte-t-il, il a immédiatement adopté la physionomie qui correspondait à ce slogan « fired », viré. Et quand j'ai vu raconter ce photographe la photo d'identification policière, qui est un phénomène aussi de retournement des images, j'ai retrouvé la photo que j'avais fait dans la Trump Tower après son élection. C'est-à-dire, ce qui est frappant dans cette photo, c'est que elle n'est pas mise en scène, la photo de son arrestation, en prison. C'est une procédure habituelle. C'est l'appareil photo de la prison, c'est le photographe de la prison. Il a le même traitement que absolument toutes les personnes qui sont soumises à ce processus d'identification policière. La photo d'identification judiciaire, on appelle le mugshot aux États-Unis, a une fonction incriminante. C'est-à-dire qu'à la fois on désigne un suspect comme responsable d'un crime quelconque, on affiche ce portrait dans les rues, c'est-à-dire qu'on le désigne éventuellement, comme dans l'affiche wanted traditionnelle des films qu'on voit dans les films d'Américains, mais c'est incriminant, c'est-à-dire que votre crédit personnel est atteint et vous apparaissez comme suspect possiblement coupable. Ouais. Donc c'est absolument délégitimant pour un candidat à la présidence de la République.
Et lui parvient à la retourner, cette photo, à en retourner le sens. Il l'exhibe, alors, cette photo, et il la commente même. Vous dites qu'il s'écrit « Never surrender ».
Oui, c'est-à-dire que c'est ce qui est intéressant dans cette photo, parce que nullement mise en scène, il arrive quand même à la retourner à son avantage. C'est-à-dire que ce qui aurait dû être incriminant, disqualifiant pour lui, il en fait le symbole au fond de l'homme seul qui affronte un système corrompu, qui est poursuivi par les puissants, et donc il rejoint par là même, en retournant l'accusation contre ses accusateurs, à déplacer son combat d'une sphère à l'autre, de la sphère purement juridique, du procès en cours, avec son instruction, ses avocats, etc., à la sphère médiatique, dans laquelle il, par le biais des réseaux sociaux, dans laquelle il impose son propre ordre, qui est symbolique et pas judiciaire, et dont la règle, c'est la règle du défi, de la réversion, de la surenchère, hein, et il va être au fond capable de retourner le rituel du mugshot contre l'institution. Ce n'est pas lui, mais la justice qui perd la face d'une certaine manière.
Exactement.
Il ira même, pendant la campagne de 2023-2024, jusqu'à retourner contre son rival les accusations qui le poursuivent, en affirmant que à l'époque c'était Biden le candidat, que la conduite de Biden ruinait la démocratie, etc. Donc il y a un véritable retournement symbolique qui va devenir une icône, parce qu'elle va être reproduite sur toutes sortes de supports.
Et il en fait du business, il marchandise tout cela également. C'est ça peut-être le génie de commerçant, de marchand, de businessman qu'est Trump.
Tout à fait. D'ailleurs, il l'a fait à cette occasion, mais il l'a fait avec l'image, la seconde image que vous évoquiez, c'est-à-dire le jour de l'attentat où il émerge de son pupitre, le poing levé, appelant la foule à fight, à combattre. Et qui est devenu une sorte d'icône et de mythe de la puissance, avec le drapeau américain au fond, etc. C'est-à-dire que qui également, pendant sa campagne, les casquettes, enfin tous les produits dérivés du Trumpisme sont mis en vente, diffusés à des milliers d'exemplaires, voire des millions, et deviennent une source de revenus. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait remarquer par rapport à cette photo, l'usage qu'il en a fait, c'est que le conflit Si conflit il y a, c'est un conflit non pas entre la justice et Donald Trump seulement. C'est un conflit entre le judiciaire, l'ordre du judiciaire et l'ordre de l'imaginaire. La puissance de la loi et celle des réseaux sociaux. Qui va gagner? Qui va forcer l'autre à comparaître? Et devant quelle juridiction? Et c'est ça l'innovation véritable que Trump introduit dans l'usage des images, c'est-à-dire qu'il joue sur l'inconscient collectif et non pas sur la raison collective, non pas sur l'esprit du droit, mais sur une sorte de d'esprit de la bande dessinée, des images mythologiques enracinées au fond de l'imaginaire américain.
Et vous écrivez également, Christian Salmon, qu'il parvient à asseoir la crédibilité de son discours, pardon, sur le discrédit général et ce qui aggrave les effets de ce discrédit général, c'est aussi peut-être la faiblesse de la réponse démocratique.
Absolument, parce que dans ce monde où le négatif est loi, le positif a beaucoup de mal à s'imposer. Outre le fait que nos classes politiques néolibérales qui sont opposées à Trump dans tous les pays, ont peu d'arguments. Elles se sont entretenues dans une sorte d'autosatisfaction, de prétention.
Et de discours assez lisse, de discours moral qui ne suffit pas à contrebalancer le pouvoir qu'ont ces images ou ce langage sur les inconscients collectifs.
Absolument, c'est-à-dire que c'était le cas de Hillary Clinton qui en a payé sa présidence, c'est aussi le cas de Kamala Harris qui, pour être moins détestée que ne l'était Hillary Clinton, n'en a assumé quand même pas moins l'héritage de son président en tant que vice-présidente, mais aussi l'héritage démocrate, qui est extrêmement timide, extrêmement peu créatif. D'ailleurs, la campagne de Kamala Harris était menée par des conseillers qui étaient des conseillers de Biden et qui avaient été les conseillers de la campagne d'Obama, sans parler du couple Obama qui a fait campagne pour elle. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé, qu'est-ce qu'ils ont conseillé à Kamala Harris? C'est de faire campagne sur le storytelling. Vous savez, elle a raconté l'histoire de son enfance, cette femme métissée, etc. Sauf que ce n'était plus, quand Obama le faisait, c'était en rupture avec un système. Il retournait le discours identitaire des Bush et d'une longue tradition politique que représentait George W. Bush. Là, elle est intégrée dans une longue tradition démocrate qui remonte jusqu'à Clinton. Elle n'était pas en rupture. Sinon, sur le discours adressé aux femmes, sur la question de l'avortement. Mais c'était peu de choses par rapport à ce qu'attendaient les électeurs en colère.
Oui, et c'est peut-être aussi le caractère, j'utilisais tout à l'heure l'adjectif lisse de ce discours qui justement révèle la faiblesse par rapport au discours de celui qu'un éditorialiste néoconservateur désigne ainsi, un roi lire de bas étage ou encore un bouffon maléfique. Et face à cela, il y a une incompétence à la fois des images, de l'autre côté, du côté des démocrates, et une incompétence aussi du discours, de la narration.
Oui, absolument. La réaction que vous citez de cet éditorialiste néoconservateur était, je crois, en 2016. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire pendant la campagne de 2016 et dans l'immédiate dans les heures immédiates qui ont suivi sa victoire, le monde libéral, c'est-à-dire la presse libérale, comme les leaders démocrates, ont tout insisté sur le caractère provocateur, disqualifié, faisant de Trump un homme qui ne pouvait pas gagner. Or, c'est précisément toutes ces valeurs négatives qui étaient stigmatisées par la presse, je dirais, légitimiste, la presse dominante, avec laquelle on est d'accord, bien sûr, mais qui ne touche pas aux grands paramètres de la situation.
Finalement,
je voudrais revenir là-dessus, parce que la condition politique depuis 2016 a été remodelée sous l'effet de plusieurs révolutions enchevêtrées. C'est ce qu'on oublie. Depuis 30 ans, on vit, en quelque sorte, dans une situation anthropologique qui est métamorphosée sous l'effet de quatre révolutions, en fait, successives ou simultanées. Évidemment, la révolution néolibérale qui a transformé le capitalisme, la révolution numérique avec non seulement d'abord la télévision par câble, mais ensuite l'irruption des réseaux sociaux qui ont bouleversé les conditions socio-techniques, on pourrait dire, de la communication politique. Mais il y a également une révolution managériale qui a mis fin au modèle social du Fordisme et qui a promu un nouveau modèle managérial qui soumet les individus à une obligation de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et depuis 30 ans, c'est de plus en plus affirmé, il ne suffit pas d'exercer son talent, son expertise dans l'entreprise à sa place. Il faut être un performeur. Et encore une fois, Elon Musk incarne cet idéal type du performeur. Et au fond, la société demande à chacun « Quel genre d'histoire es-tu ?» et non pas qu'est-ce que tu es capable de faire ou qu'est-ce que tu as envie de faire, en quoi tu as envie de collaborer à un processus collectif. Non, tu dois jouer ta carte. Et TikTok, c'est au fond le réseau TikTok est le grand théâtre de cette performativité des individus. Et puis, il y a une quatrième révolution qui est au fond une révolution, c'est peut-être la plus difficile à cerner, mais la plus grave, de la subjectivité. C'est-à-dire, un nouvel idéal type qui privilégie non pas les valeurs de la tradition, les valeurs de la transmission. Je pense par exemple à un ouvrier chez Ford qui s'inscrivait non seulement dans un processus de travail, mais dans une histoire. Il allait faire toute sa carrière chez Ford. Et son fils pourrait lui succéder chez Ford. C'est-à-dire qu'il y avait un temps long dans lequel s'inscrivaient les existences. Mmh. Aujourd'hui, on est dans un temps de la mobilité, de la transgression, de la flexibilité. Plutôt que la loyauté, on privilégie la capacité à se transformer, la capacité à obéir aux injonctions. Et tout ça va façonner très profondément la condition de vie, mais aussi la condition politique.
Nous allons écouter quelqu'un qui nous parle aussi de notre temps, de notre époque en France. C'est Bernard Lavilliers.
Cerclé de portefeuille, stomach à l'élite vide, gonflé par l'illusion, parfois dragué par l'art, vidé par l'insondable, guidé par la victoire. Elle avance aujourd'hui, en plein air sans complexe, chez les petits affranchis, de la voix et du geste. Y'a pas de transparence dans la géflexion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. La corruption dans sa fonction assise comme une courtisane. Elle parle du futur dans les fumées à vin, des cercles réfléchis par des miroirs obscurs. Tout le monde s'épie, blanchit et se rassure. Et s'il te reste encore une portion d'azur, une idée libertaire, une folle passion, et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption. Positive et inquiète, pour souffler pourri, corruption ordinaire de la démocratie. Y a pas de transparence dans la génuflexion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption. Je suis la corruption.
Dialogue. Montserrat Vidal.
Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Il faut à peine quelques minutes pour être membre des fameux aujourd'hui. Telle est l'époque que vous nous décrivez dans votre essai, Christian Salmon. Pouvoir de l'image qui est renversé, valeur négative qui triomphe sur les valeurs qui, pendant des siècles et des siècles, ont conduit nos vies et aussi peut-être nos systèmes démocratiques. Mais c'est la langue elle-même, dites-vous, qui est atteinte, qui est dégradée et récupérée. Vous faites une analyse de l'expression, par exemple, « fake news ». Car il y a une langue des bouffons, comme il y avait avec Orwell une novlangue. Vous avez appelé cela la langue troll. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Christian Salmon?
Oui, c'est encore un phénomène qui passe un peu inaperçu, tellement on est d'une certaine manière acclimaté par les réseaux sociaux. Mais c'est la langue du trash, la langue du troll, c'est-à-dire que cette langue qui était réservée aux sportifs dans le basket, dans la boxe, pour faire de la publicité autour de leur combat. Qui insultaient leurs adversaires. On se souvient des performances de Mohamed Ali avant les combats, qui attirait l'attention, et il le faisait de manière très, très, j'allais dire, savante, très calculée. Eh bien, cette langue du trash s'est répandue avec les réseaux sociaux de manière systématique, au point que, par exemple, en France, on peut entendre un président du Sénat s'adresser à un leader politique d'opposition en lui disant « ferme ta gueule », entre guillemets. Mais ce n'est pas seulement ce cas un peu anecdotique. Les managers dans les entreprises utilisent ce langage par rapport à leurs concurrent, ou même incite son usage entre les salariés. Il s'agit de la même manière de rehausser l'esprit de compétitivité. Et donc on voit là le lien entre une certaine langue et le système, disons, économico-financier, enfin l'éthos du management. Hein. Mais il y a également le jeu avec la vérité. C'est-à-dire que le fameux fake news, qui est devenu en 2016 le mot le plus cité dans le monde pendant une période, il est stratégiquement utilisé, ce mot de fake news, pour détruire l'opposition entre la vérité et le mensonge. C'est-à-dire, je mens, mais je vous accuse de fake news. Et donc, petit à petit, ce n'est plus seulement le mensonge qui s'oppose à la vérité, mais la distance entre les deux qui s'amenuise et qui se relativise. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien où est le mensonge et où est la vérité. Et ça s'est fait de manière systématique, ce qui fait qu'aujourd'hui, le rapport à la vérité, ce qu'on pourrait mettre au fondement même de la démocratie, parce que les Grecs, dans leur forum, ne parlaient que de ça. Vous savez, Michel Foucault parlait de la bonne parésia, c'est-à-dire le discours vrai. Le discours vrai, c'est la capacité pour chacun d'exprimer son opinion à l'intérieur du forum. Alors, ce chacun était limité à ceux qui étaient considérés comme des citoyens, mais de le faire librement, de le faire avec courage, c'est-à-dire de pouvoir affronter la parole du monarque, d'utiliser pour cela un certain savoir-faire, une capacité à convaincre l'autre, et surtout, Foucault nous dit d'être un discours qui exprime une volonté de vérité, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si on exprime la vérité, mais en tout cas qui est le logos, qui s'appuie sur une volonté de vérité. Et que nous dit Foucault en face de cette bonne parésia? D'ailleurs, il y a une crise entre le 4e et le 5e siècle chez les Grecs, c'est la mauvaise parésia. Qu'est-ce que c'est que la mauvaise parésia? C'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire ce n'est plus un collectif de citoyens qui s'exprime, mais n'importe qui. Ce n'importe quoi et ce n'importe qui peut tout dire. Et à la place du courage adressé aux dirigeants, c'est la démagogie qui s'impose de la part du dirigeant, qui suit au fond l'opinion collective. Et au lieu du désir de vérité, du logos, eh bien c'est la démagogie qui s'impose, c'est-à-dire le mensonge qui transforme la réalité, le discours des sophistes, etc. Donc si on réfléchit aujourd'hui à comment sortir de cette mauvaise parésia, qui est un peu la condition du renouveau démocratique, eh bien, ça voudrait dire sortir de cette scène envoûtée des réseaux sociaux, développer des espaces de dissensus démocratique, de dialogue, assainis, je dirais, par la régulation, par différents moyens, pour promouvoir une parole qui s'inspire du logos et non plus du mensonge.
Merci beaucoup Christian Salmon. J'invite nos auditeurs à lire « L'Empire du discrédit » publié aux éditions « Les liens qui libèrent ».
RCF vous propose de célébrer le culte protestant. Depuis ses studios, votre radio invite tous les chrétiens à prier dans un esprit de partage. La célébration du culte protestant, c'est ce dimanche à 13h sur RCF et sur l'application RCF.
Le téléphone du dimanche est une émission dédiée aux personnes en détention qui peuvent entendre chaque semaine un ensemble de messages à l'antenne. Des messages enregistrés par leurs proches promptent à les soutenir dans cette épreuve qu'est l'emprisonnement. Comme dit Jean Cael, du Secours catholique, purger une peine, c'est être privé de liberté, pas de sa famille. Pour déposer vos messages, composez le 04 28 29 04 17.
Vous écoutez RCF à Lannion sur le 102.1.
Mille questions à la fois. En collaboration avec le site croirelacroix.com. Florence Châtel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mille questions à la fois, votre émission chrétienne qui permet d'éclairer le contenu de la foi, de mieux comprendre les Écritures ou de percer les méandres de notre vie spirituelle. Les révélations sur les abus et les violences sexuelles dans l'Église ont mis en cause de nombreux fondateurs de communautés nouvelles, prêtres ou laïcs, comme le père Marie-Dominique Philippe, fondateur des Frères de Saint-Jean, son frère le père Thomas Philippe et Jean Vanier, fondateur de l'Arche, Gérard Croissant, dit frère Ephraim, fondateur des Béatitudes avec son épouse. À chaque fois, il s'agissait de personnalités charismatiques. Faut-il se méfier des charismes dans l'Église? C'est la question que je pose à mon invité du jour, le jésuite Guillaume Causse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie et enseignant au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Pour commencer, qu'est-ce qu'un charisme dans la tradition de l'Église?
Un charisme dans la tradition de l'Église, c'est d'abord un don de l'esprit. Charisme, ça vient du grec qui veut dire don, gratuit, grâce. Et il y en a quelques listes, notamment chez Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, qui sont des manifestations diverses du don de l'unique esprit. Donc, charisme, c'est entendre comme un don de l'esprit qui a une visée, qui est de construire l'unité de l'Église. C'est donné à des chrétiens pour se mettre au service, en fait, de leurs frères. C'est une manifestation de la charité, au fond.
Est-ce que c'est réservé à certaines personnes élues ou cela concerne-t-il tout le monde? Enfin, comment?
Alors, d'après les expériences et les théologiens, puis jusqu'à Vatican II, qui a repris longuement cette question des charismes, l'esprit se donne à chacun selon ce qu'il est. Donc, tout le monde reçoit des charismes, mais ces charismes sont différents les uns des autres. Et Paul a cette image du corps, un corps. L'ensemble des charismes, c'est comme l'ensemble des membres du corps. Et dans un corps, il faut un pied, il faut une main, il faut une tête. Voilà, donc chacun reçoit un charisme particulier, mais qui, en fait, n'a de sens que par rapport à l'ensemble des autres charismes. Et donc, c'est à chacun, au fond, de discerner. Et ça, c'est un charisme très particulier. C'est peut-être le charisme des charismes, qui est le discernement, c'est-à-dire d'apprendre à reconnaître à la fois ce que nous recevons pour le service du corps et aussi de pouvoir entendre et reconnaître et valider ce que d'autres portent.
Et alors, comment on fait? Parce que donc, vous êtes jésuite, les jésuites, on sait, sont très bons dans le discernement, c'est un peu leur spécialité. Comment Saint Ignace de Loyola, le fondateur des jésuites, aborde-t-il cette question?
Alors, je ne sais pas si les jésuites sont très bons, il y a des contre-exemples malheureux. Néanmoins, dans les exercices spirituels qu'Ignace de Loyola nous a laissés, il nous laisse avec une série précisément d'exercices qui sont là pour nous apprendre à écouter la manière dont l'esprit nous parle à chacun. Et parmi ces exercices, une structure très fondamentale qui est de se mettre à l'écoute de l'Évangile. Et lisant, méditant, contemplant les évangiles, et la Bible plus largement, mais en particulier en suivant Jésus dans les évangiles, on apprend à reconnaître en soi la manière dont l'esprit travaille. Parce que la première chose, le charisme le plus fondamental, c'est de nous apprendre à reconnaître Jésus dans nos existences. Et donc, de le reconnaissant, d'apprendre à découvrir qui il est, c'est-à-dire celui qui nous sauve, et entendre la manière dont il nous appelle à participer à sa mission. Voilà. Donc c'est ça le travail qui s'apprend avec un accompagnement, avec de la prière suivie.
Oui. Alors comment on entend à quoi il nous appelle? Parce qu'on peut s'arroger un charisme, non? Mettre la main dessus ou croire qu'on l'a reçu?
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est le tout début du processus des exercices, c'est-à-dire d'identifier ce que Ignace de Loyola appelle des attachements désordonnés, qui sont en fait des manières de mettre la main sur le don. Parce que tout ce que nous avons est don. La vie que nous avons reçue, les traits de caractère, ce qu'on appelle communément des charismes, c'est-à-dire des personnes charismatiques. En fait, c'est pas des charismes au sens biblique du terme, hein, c'est simplement des capacités que des gens ont, qu'ils peuvent mettre au service, mais qu'ils peuvent aussi mettre au service de leur propre pouvoir. Voilà. Donc le travail sur cette tentation qui nous habite toujours et qui continue à nous habiter, c'est d'apprendre à reconnaître combien le don de Dieu, quand il est reçu comme tel, porte à la joie, à l'allégresse, au service, à la louange, tandis que lorsque nous nous l'approprions, cette joie se perd, cette joie disparaît. Voilà, ça c'est le critère fondamental, qui est un critère qui appartient à chacun d'entre nous.
Mais alors en même temps, parce que effectivement vous disiez, y compris chez les jésuites, il y a eu aussi des personnes qui ont abusé, voilà, et qui ont été condamnées pour ça. En fait, comment en fait, le discernement ne prémunit pas de tout, j'ai envie de dire. Donc parce qu'on peut aussi éprouver de la joie. Une forme de joie perverse, on pourrait dire, ou vous voyez, enfin, est-ce qu'on peut détourner
je
le charisme?
Vois. En fait, la joie spirituelle ne trompe pas. Mmh. En revanche, dans les affaires que vous avez évoquées, ce qui est très clair, c'est que à un moment donné, les choses se sont sues et il y a eu des décisions politiques de cacher. Et à partir de là, on a eu un phénomène dans lequel ces personnes, c'était elles-mêmes, par exemple Jean Vanier, avec ses qualités humaines aussi, mais avec une décision qui a été prise quelque part, à un moment donné, qui a fait que cette personne a été portée très haut, présentée comme sainte, et pour une part, dans ses actions, elle avait fait des très belles choses, c'est vrai, mais a été cachée, toute une autre partie de sa personnalité. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu un montage collectif qui a fait un certain nombre de victimes directes, qui sont les femmes qui ont été agressées, et beaucoup de victimes indirectes, qui sont tous ceux qui se sont donnés à cette œuvre en pensant avoir affaire à quelqu'un de totale confiance, et en fait qui ont été trahis. Voilà. Donc là, il y a vraiment des manœuvres très 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 déterminées. Et par rapport à ça, que faire? Si ce n'est aujourd'hui le travail des historiens qui essayent de regarder qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça a péché? Et là, on voit très clairement que ce qui a péché, c'est que des décisions qui avaient été prises par l'Église n'ont pas été suivies des faits. Pourquoi? Pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, etc. Donc c'est ça en fait le point sur lequel il faut vraiment être attentif.
Alors en même temps, à quoi donc il faut être attentif à ça, mais à quoi aussi peut-on être vigilant? C'est-à-dire que est-ce que finalement on n'a pas été un peu naïf ou victime d'une sorte de starification présente dans l'Église comme dans la société? Vous voyez, oui c'est ça. À quoi faut-il être vigilant aujourd'hui?
Alors ça c'est là où les charismes sont précieux, parce que les charismes n'existent pas en dehors du corps de l'Église. Et le corps de l'Église, à Vatican II le rappelle, a aussi une très grande responsabilité dans le discernement et la confirmation des charismes, dans le suivi. Encore une chose très importante, un charisme, c'est un don qui est fait à chaque fois à la personne. Donc, une personne charismatique, au sens de saint Paul, ça n'existe pas. C'est là où il y a un piège qui s'établit. C'est-à-dire qu'une personne charismatique, ça serait une personne qui se serait approprié son charisme. C'est une contradiction dans les termes. C'est impossible. Donc, une personne doit discerner, et les autres autour de lui doivent discerner à chaque fois ce qui se passe. On n'est jamais arrivé.
Qu'est-ce qui authentifie un charisme ? Qu'est-ce qui confirme ?
Saint Paul, et puis ensuite la tradition le dit, c'est ce qu'on appelle traditionnellement la charité. Mais là encore, c'est un terme qui peut être piégé. La charité, c'est la qualité de la relation. On pourrait dire c'est à la fois l'humilité, c'est être capable d'entendre vraiment ce que l'autre est, ce que l'autre dit, ce dont l'autre a besoin, et lui donner dans un grand respect. C'est ça la charité. Et ça, c'est l'esprit lui-même. Et c'est le critère le plus fondamental. C'est au fond ce qui... Quand on relie une expérience, une décision qu'on a prise, une action qu'on a menée, en écoutant quelque chose de l'ordre d'un charisme, est-ce que cette action, cette décision a créé en moi, en l'autre, dans la communauté, un accroissement de foi, d'espérance, de charité, ou pas ? Et ça, c'est ça le critère, au fond.
Merci, Guillaume Cause, de nous avoir aidé à réfléchir à finalement ce qu'est un charisme, et surtout à veiller à ne pas s'arroger nous-mêmes des charismes. Je vous remercie beaucoup d'être fidèle à 1000 questions à la fois. On se retrouve la semaine prochaine.
1000 questions à la fois. En collaboration avec le site croirelacroix.com.
Bonjour Monseigneur Ulrich.
Bonjour Marie-Ange.
Alors quand même, on peut pas passer à côté de cette réouverture, Monseigneur Ulrich. C'est quand même très émouvant. J'imagine que même pour vous, qui étiez en compagnie qui accompagniez le président de la République, Emmanuel Macron, c'est première réaction un petit peu presque à chaud, si je puis dire.
Voilà, ça a été un moment, je crois, très très fort pour lui. Évidemment, il avait l'air tout à fait ému 5 ans après. D'entrer dans la cathédrale qu'il a visitée. C'était la 7e visite officielle du président dans la cathédrale depuis l'incendie.
Oui.
Il semblait très ému. Je peux, comme ça, sans en rajouter, dire que moi aussi,
ouais, j'étais
très ému,
hein,
ouais, de me trouver dans le vaisseau maintenant complètement restauré,
ouais,
complètement. Les chaises n'étaient pas encore installées, plus exactement, elles avaient déjà été installées, mais on les a enlevées pour pouvoir accueillir tout le monde des compagnons. Ils étaient 1400 à venir en fin de visite pour entendre le discours du président.
Ouais.
1400 compagnons, mécènes et de toutes sortes de personnes qui ont gravité autour de la rénovation de la cathédrale.
Voilà. Alors ce que j'ai bien aimé moi personnellement, c'est qu'on a entendu vraiment un président qui a salué, qui a vraiment fait honneur au travail bien fait, à
oui,
l'énergie, à la...
Oui,
sans oui, parler de
oui,
foi précisément,
oui,
mais c'est vrai que c'était quand même appréciable peut-être d'entendre cela. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu. Il a parlé
oui,
aussi de la
oui,
chaîne de l'histoire, qui ne
oui,
se coupait pas avec l'art des compagnons, l'artisanat qui règne en maître dans le travail
fait. Oui, c'est vrai. Il a beaucoup souligné ça, beaucoup souligné l'excellence française dans ces domaines, et ça, moi je l'ai constaté aussi, le raccord avec le projet de cette cathédrale depuis sa création il y a 865 ans. Donc ça c'est très beau,
ouais,
et de montrer comment ce que nous avons aujourd'hui nous le situe dans un continuum historique très important, et ça le replace comme un lieu de culte, d'abord. Parfois, des gens s'inquiètent et disent « qu'est-ce qu'on va faire de notre cathédrale ? Est-ce qu'on va en faire un musée ?» Non, elle est, et le choix du mobilier que j'avais fait il y a plus d'un an le montre. Ce mobilier liturgique est très présent et il indique tout à fait et le baptême, et l'Eucharistie, et la croix, et la proclamation de la parole et le ministère de l'évêque et le tabernacle qui accueille, et puis encore le reliquaire magnifique de Sylvain Dubuisson pour la Sainte Couronne.
Alors sans transition, ça fait presque un lien logique avec votre ouvrage, Monseigneur Ulrich, dont il est question aujourd'hui dans notre entretien. C'est drôle parce que cette cathédrale Notre-Dame figure justement sur la couverture de votre livre, si je ne me trompe pas. Liberté de Dieu, c'est donc le titre de votre livre. Pourquoi ce titre? Je crois qu'il y a une résonance avec votre jeunesse, avec votre enfance presque, Monseigneur Ulrich. Hein, la liberté de Dieu qui est un fil rouge dans votre parcours de foi et d'homme.
Tout à fait. Je commence mon livre par le récit de l'incendie, de la peine qu'ont eu des milliers, des centaines de milliers de gens, mais les milliers qui étaient sur les rives de la Seine et qui regardaient le spectacle, qui pleuraient et qui priaient, qui espéraient le retour dans Notre-Dame, qui se disaient dans quel état va-t-elle être, mais qui priaient beaucoup pour qu'elle ne soit pas détruite complètement, mais qu'elle revive. Donc ça, c'était le point de départ. Dans une situation tragique, j'ai repéré comment Dieu était capable de rejoindre des populations apeurées et leur donner le courage et le désir d'une espérance. C'est cela que j'expérimente, moi, comme signe de la liberté de Dieu qui, au milieu des événements, n'oublie jamais de montrer qu'il est proche. Voilà.
Oui.
Et cela, c'est pour moi une constante. Alors, j'ai à partir de là essayé de méditer sur cette liberté de Dieu et de la voir à l'œuvre, par exemple, dans la survenue inattendue des catéchumènes dans le monde d'aujourd'hui, où qui semble un monde d'indifférence. Et puis voilà que des centaines et des milliers de gens qui n'ont pas été baptisés ou qui ont été baptisés non catéchisés et qui n'ont pas reçu les sacrements se présentent à l'Église et disent « il manque une dimension forte à notre vie ». Et donc ça, c'est vraiment très important, et je pense que c'est un effet de cette liberté de Dieu qui, au milieu des circonstances où on a l'air de l'oublier, manifeste sa présence à travers le choix spirituel d'hommes et de femmes adultes qui viennent se présenter à l'Église. C'est un de ces signes que j'ai essayé de déceler, de mettre en lumière. Tout le monde ne sait pas cela, et je pense qu'il fallait le manifester, voilà.
Et vous, est-ce qu'on peut dire que votre parcours de foi a été un long fleuve tranquille ou a été semé d'embûches? Je crois qu'il y a eu des questionnements, bien évidemment, comme chaque homme qui devient prêtre, évidemment, sans doute en tout cas, et peut-être même on l'espère, parce que sinon vous seriez tous des robots, et je ne crois pas que vous l'êtes, ni vous ni les autres, mais c'est vrai que vous vous êtes posé quand même pas mal de questions à une époque pourtant où il était, vous le dites d'ailleurs de bon ton, de devenir prêtre, enfin en tout cas c'était bien vu, il y avait beaucoup de prêtres, c'était pas du tout comme aujourd'hui, où c'était beaucoup plus beaucoup plus clairsemé en termes de représentation de l'Église. Oui. Et finalement, que vient faire la liberté de Dieu là-dedans, Monseigneur Ulrich?
Si je puis dire. En effet, la liberté de Dieu, c'est un don qu'il m'a fait. Mm. Et parce qu'il m'a permis de choisir vraiment de le suivre et de répondre à son appel. Je ne me suis jamais senti comme obligé, je pense qu'à certaines époques, parce qu'il y avait un espèce de flux.
Oui.
Des hommes, des femmes sont devenus prêtres ou religieux, religieuses, parce qu'elles étaient comme entraînées par le milieu. Et donc, à un certain moment, il y en a qui se sont dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, j'ai pas réfléchi, voilà. Et aujourd'hui, moi qui me suis trouvé à un moment où la courbe des vocations était en grande diminution, déjà, mais il y avait encore des vocations assez nombreuses.
Oui.
Je me suis trouvé à ce moment-là sentant que j'étais doté d'une vraie liberté de choix devant l'appel que je ressentais. Et que le Seigneur me laissait découvrir vraiment ce à quoi il pouvait m'appeler. Et j'ai eu le bonheur d'être aidé, assisté dans mon cheminement pour poser un choix libre en faveur de ma vocation.
La liberté de Dieu, en tout cas, malheureusement, l'entretien touche à sa fin. Monseigneur Ulrich, en tout cas, on invite bien sûr nos auditeurs à se procurer ce livre, votre ouvrage. Finalement, c'est un peu votre biographie, votre histoire, votre parcours personnel.
C'est-à-dire, il m'a semblé qu'à travers ce que j'ai vécu, il pouvait se dire un certain nombre de choses.
Oui.
J'ai aussi fait l'expérience de ce que le Concile Vatican II a apporté à l'Église comme ouverture à un monde et comme ouverture à un avenir.
Oui.
C'est-à-dire que le Concile Vatican II a mis en place des choses qui nous permettaient, je crois, d'affronter le temps présent. 60 ans après.
La quête de sens, la soif de spiritualité, bien sûr, mise à l'honneur dans votre livre, c'est bien une question d'actualité. Merci en tout cas, Monseigneur Ulrich, d'avoir une fois de plus participé à cet entretien. Puis on se dit bien évidemment à la semaine prochaine consacrée à notre
oui.
radiodon, si vous le savez évidemment, Monseigneur
oui,
Ulrich.
Bien sûr.
Voilà. Et en attendant, bah, bon week-end festif.
Bon week-end, bon dimanche.
Merci, Monseigneur Ulrich.
Au revoir.
RCF, la prière du matin.
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme.
Dans l'Évangile, le Seigneur Jésus nous invite à ne pas nous tromper de bonheur. Dans une société où le bien-être a pris la première place au détriment parfois du vrai bonheur, nous sommes tentés par ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Confondre le vrai bonheur et les plaisirs, certes importants et légitimes, mais qui ne comblent pas la soif de nos cœurs, les désirs d'infini qui habitent chaque être humain. Mon bonheur, ce n'est pas de jouir de la vie, c'est d'être aimé infiniment par un Dieu qui a donné sa vie pour moi et qui m'invite à donner la mienne pour mes frères. Au milieu du malheur, les prophètes de l'Ancien Testament, comme le Seigneur Jésus, et tous les saints de l'histoire de l'Église, nous rappellent que le Seigneur est là, toujours présent à nos côtés, parfois silencieux mais infiniment aimant. Oui, l'espérance n'est pas morte, elle se trouve dans le cœur de ces hommes et ces femmes qui savent relever la tête, qui ne se replient pas sur eux-mêmes, qui rayonnent d'un bonheur qui les dépasse. C'est ce à quoi nous invite ce temps de l'Avent. Sachons répondre simplement et avec courage à l'appel de Jésus qui nous invite à la seule réaction qui soit digne du chrétien, la sainteté.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Le royaume est proche, chacun. allez et proclamez l'évangile parmi les nations.
Le saint du jour, Isabelle Delaunay.
Bonjour, en ce 1er décembre, nous fêtons les Florence et les Éloi, deux prénoms d'origine latine. L'un vient de Florence, qui signifie « en fleur », et l'autre, Éloi, veut dire « l'élu ». Sainte Florence est une fille spirituelle de Saint-Hilaire de Poitiers, qui choisit de vivre en recluse, c'est-à-dire dans une cellule souvent murée. S'appliquant à la prière et au jeûne, elle y vécut 7 ans jusqu'à sa mort. Quant à saint Éloi, bien connu par la chanson populaire, on sait qu'il fut conseiller au 7e siècle du roi Dagobert. Toute sa vie, il a manié beaucoup d'argent, mais il a toujours été très honnête et ne s'est pas enrichi personnellement. Son seul but a été d'affranchir des esclaves, de racheter des prisonniers, de construire des hôpitaux et de fonder des monastères. Mais nous fêtons aussi aujourd'hui saint Charles de Foucault, canonisé par le pape François le 15 mai 2022. Il est difficile de résumer en quelques mots la vie de cet officier de cavalerie de l'armée française, à la jeunesse dissolue et scandaleuse, qui décide de démissionner à 23 ans pour aller explorer le Maroc, ce qui lui vaudra d'être reconnu et médaillé par la Société de géographie. De retour en France et après diverses rencontres, dont celle de l'abbé Huvelin, il retrouve la foi chrétienne et devient moine chez les Trappistes. Mais Charles souhaite vivre encore plus fort son idéal de pauvreté, d'abnégation et de pénitence. Il quitte la Trappe pour devenir ermite en 1897 et vit alors en Palestine. Ordonné prêtre à Viviers en 1901, il s'installe dans le Sahara algérien, à Beni Abbès. Il étudie pendant plus de 12 ans la culture des Touaregs. Il évangélisait beaucoup par son exemple, plus que par ses sermons. Le 1er décembre 1916, Charles de Foucault est assassiné à la porte de son ermitage. Finissons avec un extrait de sa prière bouleversante. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. »
Message de Philippe Lansac, directeur général RCF.
À l'occasion du Radio Don, vous avez été très nombreux à nous apporter votre soutien financier dans un formidable élan de générosité. Votre engagement, vos nombreux témoignages nous encouragent plus que jamais à poursuivre notre mission de radio chrétienne. Alors, de tout cœur, au nom de toutes les radios RCF, merci.
Il est toujours temps de nous soutenir. Faites un chèque à RCF Solidarité, 69 321, Lyon, CEDEX 05. Ils ont croisé la route du Christ. Ils racontent cet instant dans Témoins. Chaque semaine, des anonymes, qu'ils soient laïcs ou religieux, partagent leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre. Témoins, c'est ce dimanche à midi et à la demande sur rcf.fr.
Le chapelet de Lourdes, c'est votre rendez-vous quotidien avec la prière. Depuis la grotte de Massabielle, suivez les méditations des mystères du rosaire en communion de prière avec les pèlerins et tous les auditeurs. Le chapelet de Lourdes, c'est tous les jours à 15h30 sur RCF et à la demande sur l'application RCF.